ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro d'avril consacré à la poésie de Philippe Jacotet, qui vient de nous quitter à l'âge de 95 ans. Un poète dont on entendait assez peu parler, mais qui est à mon sens une des grandes voix de la poésie française. Un poète dont je vous avais donné à entendre les textes au cours de deux émissions consécutives en décembre 2016 et janvier 2017. Et comme sa parole a continué à m'habiter, à me nourrir, j'ai eu envie de la partager une fois encore avec vous. D'abord comme un hommage à cet homme discret et singulier, et aussi dans l'espoir que sa petite musique, qui m'a émue et séduite lorsque je l'ai découverte, vous accroche, vous aussi, et vous donne surtout l'envie de le lire. Lorsqu'on a ressenti une forte émotion à la lecture d'un ou plusieurs recueils, on a envie d'y revenir et d'en découvrir davantage. C'est ce qui m'est arrivé avec Philippe Jacotet. Alors, pour compléter mes lectures, je me suis procuré récemment le volume de la Pléiade intitulé « Œuvre », publié en 2014. Cette édition a été établie par une femme, José-Flore Tapie, à partir des textes sélectionnés par Jacotet, ce qui lui fait rejoindre le club très fermé des auteurs publiés dans la Pléiade de leur vivant. Comme j'ai déjà suffisamment évoqué l'itinéraire personnel de Philippe Jacotet dans les deux émissions précédentes, je voudrais que celle-ci soit principalement axée sur ses textes, ses poèmes, ses proses poétiques et ses carnets. Il y aura bien sûr des intermèdes musicaux avec les compositeurs qui ont accompagné et parfois inspiré Philippe Jacotet. Comme vous le savez sans doute, il habitait Grignan, en Drôme provençale. Et lorsque j'habitais moi-même à Nyons, la ville voisine, j'allais souvent à Grignan, notamment au printemps, pour les concerts de musique classique donnés chaque année au château de Grignan. Un vrai régal, autant pour le cadre que pour la qualité des interprètes. Et il y avait là, le plus souvent, monsieur et madame Jacotet, assis dans les premiers rangs. C'était une pièce de Schubert sous les doigts de Maria João Pires, Schubert pour lequel Philippe Jacotet avait une forte inclination, écrivant notamment au sujet de sa dernière sonate pour piano, qu'on entendra en fin d'émission. Voilà ce qui tient inexplicablement debout, contre les pires tempêtes, contre l'aspiration du vide. Voilà ce qui mérite définitivement d'être aimé. La tendre colonne de feu qui vous conduit, même dans le désert qui semble n'avoir ni limite, ni fin. En 1972, Jacotet recevait le prix Montaigne à Tübingen en Allemagne, et dans le discours rédigé à cette occasion, il évoquait ses convictions en matière de poésie. Il se trouve qu'au moment où j'ai commencé à écrire, toute une tendance de la poésie qu'avait illustrée à la fin du XIXe siècle des génies fascinants comme Rimbaud ou Mallarmé, qu'avaient annoncé plutôt Baudelaire, Leopardi et Novalis, et qui devait aboutir vers 1920 à l'explosion du surréalisme, se fondait sur un besoin, d'ailleurs très authentique et souvent légitime, de rupture. De rupture plus ou moins violente et totale avec le passé, la culture, la morale, la religion et la société existante, avec le monde lui-même. La vraie vie est absente, avait écrit Rimbaud, et devait répéter avec lui, généralement moins bien que lui, sans poète. J'éprouvais certes, un peu vaguement, un sentiment différent. J'entrevoyais vaguement d'autres chemins, redoutant par-dessus tout les formules catégoriques, les refus tranchants ou les affirmations péremptoires, parce qu'il me semblait que l'homme qui hausse la voix ou qui frappe du poing sur la table le fait souvent moins par conviction réelle que pour couvrir la rumeur de ses propres doutes. Rejetant donc explications, dogmes et formules, j'accotais et renvoyais à ses incertitudes, et cela le rend perméable à des signes qui lui viennent, dit-il, des êtres, des choses, des paysages et des œuvres. Ces signes, il en parle dans un autre discours prononcé en remerciement du Grand Prix Schiller accordé en 2010. Il s'agit, je le cite, « d'une révélation que la poésie pouvait être non pas même la quête, mais plus simplement l'accueil de certains signes venus du dehors par surprise, mais reçus au plus profond de soi, comme les flèches de l'amour, signes précieux entre tous, dès lors qu'ils semblaient donner à notre monde, et à notre vie dans ce monde, contre tout désespoir, une espèce de sens. Ces signes qui semblent ouvrir un chemin vers le clair, voix d'oiseaux invisibles, miroitement d'une rivière aperçue entre les arbres, tel pré traversé un soir, tel chemin suivi, et de plus en plus souvent, avec les années, ces fleurs qui ont l'air de vous parler de quelque chose comme un ordre caché, entretenant à voix très basse encore un peu de confiance dans ce monde-ci. » On a, je pense, dans ces deux extraits de discours, les caractéristiques fondamentales de la démarche poétique de Jacotet. Premier point, ce parti pris d'incertitude, qui ne conduit pas à la passivité, mais à une disponibilité et un intérêt constant pour les choses autour de lui. Ainsi, l'expérience poétique, dit-il, lui fait percevoir qu'il y a de l'inconnu, de l'insaisissable à la source, au foyer même de notre être, et sans qu'il puisse le nommer, cela l'oriente dans le sens de la hauteur. Deuxième point, une recherche de la lumière, malgré tout, malgré toutes les raisons d'être pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Ne pas donner toute la place au malheur, disait-il. Et enfin, le troisième point, une orientation, un chemin à suivre. Chemin au sens propre d'abord, puisque ses sources majeures d'inspiration étaient ses promenades dans la nature, qui le mettaient à l'affût du vivant, et aussi au sens figuré comme chemin de vie qu'il a parcouru dans la rigueur et la discrétion, en visant toujours la cohérence de ses actes avec sa parole. Voici deux extraits de ses carnets de notes pris entre 1980 et 1994 et qui constituent la seconde semaison. Le troisième extrait est tiré du recueil « Et néanmoins » paru en 2001. Tout un troupeau de collines dans leur toison, leur fourrure d'arbres. Comme on les domine du regard, on s'en croirait volontiers le berger. Cependant, la lumière du crépuscule enflamme ou empourpre plus loin les montagnes plus hautes. Elle dort les parois de rochers, tandis qu'apparaît une moitié de lune brillante et que de rares nuées fument sur quelques versants à l'ombre. Ces feux brefs des montagnes, en gracieuse et fraîche compagnie, comment dire que tout est mal ? Ce moment du premier printemps, où les feuilles, nouvelles nées, laissent encore passer la lumière avant de faire de l'ombre, dans le figuier levant toutes ses mains d'enfant. Elle la transforme en couleur vert jaune. Elle s'allume comme autant de petites flammes, de bougies dans le bâti, l'échafaudage, l'ostensoir de l'arbre. Très vite, elles se feront opaques, protectrices. Pour le moment, c'est un peu comme quand on voit passer sur un visage un bref sourire. On rentre chez soi. C'est la fin d'un jour d'hiver un peu moins court déjà que la veille, et on l'éprouve avec plaisir. On a levé les yeux. C'est comme quand on voit filer une bête d'ordinaire invisible à travers un paysage, ou un oiseau venu traverser le ciel sans qu'il soit possible de l'identifier. À croire que pendant ces quelques instants, là-bas, les choses auraient changé sous les doigts frais de la nuit à venir. Un instant. Qu'elle serait devenue du verre, matière précise et cassante, mais précieuse aussi. En même temps, un peu plus sombre et plus transparente. Des lames de verre posées sur de la lumière qui va s'éteindre, mais dont on sait qu'elle reviendra. Des verdures changées en verre, une espèce de mirage évidemment, ni moins singulier, ni moins touchant pour autant. Il y a là de ces vues qui vous font changer d'espace, par l'étroit interstice entre le jour et la nuit, entre l'hiver et le printemps. Là, dans l'intervalle, par un simple effet de lumière, on vous offre la représentation, mais sans rien de théâtral, d'un rapprochement entre les choses et les pensées. Les choses sont encore des choses, l'herbe encore de l'herbe, mais quelque chose miroite derrière, ou dessous, ou dedans. Cela se passe loin de tout bruit et à l'abri de l'ombre. En ce moment, et ce lieu-ci, l'ombre n'est plus synonyme de complot, de menace. Au contraire, elle a pris la forme d'une servante qui vous invite à entrer. Avril 1985, toujours dans la seconde semaison, cette note sur un morceau du compositeur anglais Henry Purcell. Music for a while de Purcell, chantée par Alfred Deller. La musique, un instant. Dans le centre nocturne de l'été, en un lieu dont on peut se souvenir, une nuit qu'on pourrait dater, un instant. Mais était-ce encore quelque chose que l'on puisse aussi simplement nommer, un moment qui puisse être dit moment? Toute musique accomplie n'est-elle pas une autre espèce de temps, insinuée à l'intérieur du temps, dénombrable, ou une transformation de celui-ci en une mesure plus haute, plus parfaite, donc l'indication d'un accomplissement possible, d'où notre émotion à son écoute? La voix était comme un oiseau venu d'ailleurs, montant et descendant, virevoltant dans l'air natal. La voix était tendresse, crainte, solitude. Elle désaltérait sans vous priver de votre soif.
Music for a
Dans « Pensée sous les nuages », en 1983, il y a aussi cette suite de poèmes intitulée « À Henry Purcell ». Écoute, comment se peut-il que notre voix troublée se mêle ainsi aux étoiles ? Il lui a fait gravir le ciel sur des degrés de verre par la grâce juvénile de son art. Il nous a fait entendre le passage des brebis qui se pressent dans la poussière de l'été céleste et dont nous n'avons jamais bu le lait. Il les a rassemblés dans la bergerie nocturne où de la paille brille entre les pierres. La barrière sonore est refermée, fraîcheur de ces paisibles herbes, à jamais. Ne croyez pas qu'il touche un instrument de cyprès et d'ivoire, comme il semble. Ce qu'il tient dans les mains est cette lyre à laquelle Vega sert de clé bleue. À sa clarté, nous ne faisons plus d'ombre. Songe à ce que serait pour ton ouïe, toi qui es à l'écoute de la nuit, une très lente neige de cristal. On imagine une comète qui reviendrait après des siècles du royaume des morts et cette nuit traverserait le nôtre en y semant les mêmes graines. Nul doute, cette fois les voyageurs ont passé la dernière porte. Ils voient le signe scintiller au-dessous d'eux. Pendant que je t'écoute, le reflet d'une bougie tremble dans le miroir comme une flamme tressée à de l'eau. Cette voix aussi n'est-elle pas l'écho d'une autre, plus réelle ? Va-t-il l'entendre, celui qui se débat entre les mains toujours trop lentes du bourreau ? L'entendrai-je, moi ? Si jamais il parle au-dessus de nous, entre les arbres constellés de leur avril. Tu es assis devant le métier haut dressé de cette harpe. Même invisible, je t'ai reconnu, tisserand des ruisseaux surnaturels. Les oiseaux et les fleurs ont été à la source de nombreux textes de Philippe Jacotet dans ses poèmes autant que dans ses carnets. Des carnets qu'il a appelés « la semaison » et qui sont vraiment essentiels dans son œuvre, avec des notes prises au fil du temps et couvrant 40 ans de sa vie, de 1954 à 1994. Et il n'est pas surprenant que ce poète épris de légèreté ait été aussi fortement inspiré par l'observation des oiseaux. Fauvette, dernier oiseau parleur en plein été, de quoi me parles-tu ainsi de loin en loin dans le feuillage du tilleul ? De quoi peut donc parler voix si limpide ? Seul un regard peut ressembler à cette eau. Dans son écriture, Jacotet se réfère très souvent à d'autres auteurs dont il cite des extraits qui l'ont marqué, pour ensuite leur adjoindre son texte, comme s'il dialoguait avec eux, comme s'il s'agissait de contribuer à une œuvre collective par-delà les années. Et c'est le cas dans le texte qui vient, tiré d'un ouvrage de 2008 intitulé « Ce peu de bruit ». Il y mentionne d'abord le poète anglais John Keats, puis Rainer Maria Rilke, qui fut un de ses maîtres, et après cette espèce d'introduction vient la contribution de Jacotet pour parler du rossignol. Une voix qui ne s'adresse pas à nous, qui nous ignore, et c'est pourquoi elle paraît si pure, montant comme une flamme liquide, une fusée liquide, un jet d'eau, s'élevant en spirale comme certaines merveilleuses phrases musicales, en vrille, dans le velours de la nuit d'été. Cela ruisselle vers le haut. Pas de mélancolie, pas de plainte dans ce chant-là, comme il nous semble y en avoir dans le cri du chat-huant ou le gémissement des ramiers. Pas de nervosité non plus, comme toujours en apparence, bien sûr, dans les cris des hirondelles ou même le pépiment de certains passereaux. C'est lié à la nuit, bien qu'il chante beaucoup le jour, au son même du mot « nuit », et cela monte de l'abri des arbres, des fourrés, comme la voix même des arbres, comme de l'eau. Cela rafraîchit donc, cela désaltère l'ouïe. Cela s'essaie aussi, ne fût-ce pas du premier coup, mais prend son élan. On oublie, à force de ne jamais le voir, que c'est un oiseau qui parle ainsi. Cela éclaire la nuit comme une tendre fusée et s'allie tout naturellement à la lune, monte tout naturellement vers elle. Cela pourrait être encore comme un collier de perles pour Louis. De même, dans le recueil « Et néanmoins », Philippe Jacotet emprunte, pour en faire le titre de son poème, une formule d'un autre poète anglais, Hopkins. « Comme un martin pêcheur prend feu. » Oiseau qui semble libre de tout lien, joyau orange et bleu, presque aussi rare que ces reliques dont on entr'ouvre la chasse qu'à l'occasion de certaines fêtes. Lui, toutefois, nul n'a jamais été tenu de le vénérer. D'ailleurs, on ne peut l'enfermer nulle part sous peine qu'il perde son éclat. Proche parent de ces paroles entrouies qu'on n'est jamais sûr d'avoir comprises mais qu'on n'oublie plus. Chose qu'il faut laisser au saule, au ruisseau. Choses qui vous parlent sans vouloir vous parler, qui n'ont nul souci de vous, dont aucun dieu ne saurait faire ses messagères. Fragments brillants du monde, allumés ici ou là, mi-partis d'orange et de bleu, de soleil et de nuit. Ou très tendres regards, feu et nuit qui se seraient posés sur vous un instant, pour la toute dernière fois. Jour de novembre, faste, où un martin pêcheur a pris feu dans les saules. Peut-être n'est-il pas plus nécessaire de vivre deux fois que de le revoir une fois disparu. Oiseau ni à chasser ni à piéger, et qui s'éteint dans la cage des mots. Une seule fois suffirait, pourquoi, pour dire quoi, un seul éclair plumeux pour vous laisser entendre que la mort n'est pas la mort. Chasseur, ne vise pas, cet oiseau n'est pas un gibier. Regarde, ne vise pas, recueille seulement l'éclair des plumes entre roseau et saule, alliant dans ses plumes soleil et sommeil. Tu n'aimes pas les joyaux plus que cela, je m'en souviens, mais un joyau ailé, un joyau avec un cœur. Un éclair farouche et peut-être moqueur comme certains regards autrefois. Le martin pêcheur flambe dans les saules. Il a flambé. Et si quelque chose comme cela suffisait pour sortir de la tombe avant même d'y avoir été couché?
Thank you.
Vous venez d'entendre Roger Muraro au piano dans une pièce d'Olivier Messiaen, qui était lui aussi attiré par les oiseaux et a composé des catalogues de chants d'oiseaux. C'était ici le rouge-gorge, dont Jacotet dit dans un long poème en prose qu'il est, je cite, « cet oiseau piéton que l'on est tellement tenté d'imaginer amical et même complice, tout à la fois tranquille et comme timide, moins espiègle que beaucoup d'autres. » Cet oiseau proche en qui l'on verrait volontiers l'âme réincarnée d'un enfant, ami des branches souples du figuier et de la terre soigneusement peignée par le râteau. Une autre référence, cette fois, c'est un auteur allemand contemporain auquel a été attribué récemment le prix Nobel de littérature en 2019. Il s'agit de Peter Handke. Dans le recueil intitulé « Ce peu de bruit », Philippe Jacotet écrit ceci à son propos. Handke. Le peu de choses, le presque rien, l'insignifiant, apparu dans les rares moments de confiance comme le plus signifiant, bien sûr. Mais aussi les moments de plus en plus nombreux où cela vacille, s'éloigne, s'efface, perd toute saveur et tout pouvoir. Et le bienfait alors de retrouver dans « À ma fenêtre le matin » ces carnets des années 1982-1987, le meilleur de Peter Handke. Ces notations si extraordinairement justes et précises de l'observateur anhistorique qu'il veut être, tout en ajoutant « je ne sais pas observer, je sais être ouvert », ce qu'il définit ailleurs par « percevoir d'instinct ». Dans la suite intitulée « Nuages », Philippe Jacotet cite l'auteur américain du XIXe siècle, Henri David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète. Et l'on retrouve ici l'idée de creuser un sillon qui est cher à Jacotet. Thoreau écrit quelque part dans Walden « Vie et mort, ce que nous exigeons, c'est la réalité. Nous sommes réellement mourants, écoutons le râle de notre gorge et sentons le froid aux extrémités. » Si nous sommes en vie, vaquons à notre affaire. Voilà une sagesse à laquelle j'adhère presque sans réserve. Mais quelle est notre affaire? La suite le dit très bien par métaphore. Le temps n'est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J'y bois, mais tout en buvant, j'en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l'éternité demeure. Je voudrais boire plus profond, pêcher dans le ciel dont le fond est caillouté d'étoiles. Je ne sais pas compter jusqu'à un. Je ne sais pas la première lettre de l'alphabet. Mon instinct me dit que ma tête est un organe pour creuser. Et avec elle, je voudrais miner et creuser ma route à travers ces collines. Je crois que le filon le plus riche se trouve quelque part, près d'ici. C'est grâce à la baguette divinatoire et au filet de vapeur qui s'élève que j'en juge ainsi. Et c'est ici que je commence à creuser. Et c'est Jacotet qui parle maintenant. Je crois n'avoir pas fait autre chose que creuser ainsi, tout près de moi, refusant au souci de la mort de me faire lâcher mon outil. Dans une suite intitulée « Au liseron des champs », Jacotet, comme il le fait souvent, allie prose et poésie en une série de pièces abordant chacune une facette de son sujet. Et comme précédemment avec les oiseaux, il cite un poète qui a beaucoup compté pour lui dans son apprentissage et auquel il est toujours resté fidèle, son aîné et compatriote Gustave Roux, qui exprimait ainsi son émotion devant les fleurs. Fleurs des talus sans rosée, pitoyable au voyageur qui le saluait une à une, douce à son ombre, douce à cette tête sans pensée qu'il appuie en tremblant contre vos visages. Signe, timide appel. Voici maintenant quelques extraits de la suite de Jacotet, émaillés comme toujours, pour étayer son propos, d'emprunts à Hölderlin et Claudel. Au liseron des champs. Encore, encore des fleurs, encore des pas et des phrases autour de fleurs, et qui plus est, toujours à peu près les mêmes pas, les mêmes phrases. Mais je n'y puis rien, parce que celles-ci étaient parmi les plus communes, les plus basses, poussant à ras de terre, leur secret me semblait plus indéchiffrable que les autres, plus précieux, plus nécessaire. Je recommence parce que ça a recommencé. L'émerveillement, l'étonnement, la perplexité, la gratitude aussi. Ce qui s'ouvre à la lumière du ciel, ces fleurs à ras de terre, comme de l'obscurité qui se dissiperait, ainsi que le jour se lève. Les liserons des champs, autant de discrètes nouvelles de l'aube éparse à nos pieds. Autant de bouches d'enfants disant « aube » à ras de terre, ou de modestes coupes à nos pieds, pour y boire quoi. Toute fleur qui s'ouvre, on dirait qu'elle m'ouvre les yeux, dans l'inattention, sans qu'il n'y ait aucun acte de volonté d'un côté ni de l'autre. Elle ouvre, en s'ouvrant, autre chose, beaucoup plus qu'elle-même. C'est pressentir cela qui vous surprend et vous donne la joie. Alors même qu'il vous arrive désormais par instant de trembler comme quelqu'un qui a peur et qui croit ou prétend ne pas savoir pourquoi. Pour Hölderlin, ce qui sourd pur, c'est le Rhin à sa source. C'est l'origine. Ce pourrait être aussi ce qui se lève à l'Orient, l'aurore. Claudel, à son tour, à propos d'une source, « Ce qui est pur, seul, l'original, est l'immédiat jailli. » À cette limite qu'on ne franchira pas, sourd ou éclos le rêve des divinités. Source, toujours à ras de terre, si proche, elle est plus lointaine. Chose donnée aux passants, qui pensait à toute autre chose ou ne pensait à rien, on dirait que ces fleurs, si insignifiantes soient-elles, le déplacent en quelque sorte, invisiblement, le font imperceptiblement changer d'espace. Non pas toutefois entrer dans l'irréel, non pas rêver, mais plutôt, si l'on veut, passer un seuil là où l'on ne voit ni porte, ni passage. Comme si un homme, très voûté, lisait un livre à même le sol. Sa dernière lecture.
Si, io vorrei morire, io vorrei morire, io vorrei morire.
Si, io vorrei morire, oui, je voudrais mourir, chantent les cinq voix des arts florissants, une pièce du quatrième livre de madrigaux de Monteverdi, autre compositeur aimé de Philippe Jacotet, qui, dans la première saison, écrit ceci à son propos. Claudio Monteverdi, peut-être est-il un des seuls musiciens dont la mélodie brûle. C'est comme le feu dans le jardin que le vent tourmente, obscurcit et attise tour à tour. Si je pense à un air de Bach, il me semble le voir s'élever, libre et droit, s'épanouir ensuite dans les hauteurs. Chez Monteverdi, l'air me fait l'effet d'être tendu vers quelqu'un d'insaisissable ou d'encore insaisi. Quelqu'un comme une ombre qui marche dans une forêt et qu'il faut appeler, faire revenir à tout prix avant qu'il ne soit à jamais trop tard. L'intensité de l'appel embrase la voix, et c'est à sa lumière d'incendie que le monde, s'il y a encore un monde, apparaît. Si la musique a beaucoup compté dans la vie de Jacotet, il faut y ajouter aussi la peinture, et notamment les œuvres du peintre Giorgio Morandi, 1890-1964, qui vont lui inspirer un recueil intitulé « Le bol du pèlerin » paru en 2001. Et l'émotion ressentie face au tableau de Morandi est, selon Jacotet, très proche de celle que lui procurent les paysages à l'origine de ses poèmes. Une émotion qu'il s'agit de transcrire avec les mots les plus justes, notamment lorsqu'il écrit sur les paysages de Morandi « Je retiendrai seulement le mot patience. La lumière sourde, égale, qui règne ici et dont on hésite si elle est du matin ou du soir. » Plutôt du matin, à cause d'une impression d'attente. Une lumière comme intérieure aux choses, pareille aussi à un fil de laine qui tisserait ensemble toutes choses. Maison, arbre, chemin et ciel, pour une tapisserie à tendre au mur d'une impossible salle de la paix suprême. Une lumière à la fois intérieure et lointaine, qui se confondrait avec une patience infinie. Et abordant les natures mortes de Morandi, qu'il faudrait, écrit-il, une bonne fois pour toutes, décider de nommer à l'allemande « vie silencieuse » plutôt que « nature morte », Jacotet écrit sur l'une d'elles « Ce bol presque blanc, voisinant avec une boîte, un vase, une bouteille, ne le dirait-on pas mieux fait qu'aucun autre pour que le pèlerin l'emporte dans ses bagages et y recueille, à l'étape, au puits du vivant qui voit, de quoi se désaltérer ? Même ou surtout le pèlerin immobile, celui qui a fini par ne se déplacer plus qu'en pensée, si ses pieds ne le portent plus. Ce pèlerin immobile, ce voyageur immobile, victime des vicissitudes de l'âge et en proie à l'angoisse de la mort, Philippe Jacotet en parle très souvent, bien avant même qu'arrive la vieillesse. La paume qui durcit, où l'os devient pierre, comme affleurent les rochers dans une combe tendre. On se rapproche de la pierre. L'os commence à se manifester, à montrer sa force, et la façon dont il l'emporte à la fin, pour longtemps. Pas pour toujours. C'est la mort qui gagne en nous, non comme un fruit, ainsi que l'a rêvé Rilke, comme une pierre. Le vêtement, quant à lui, s'éraille, s'effiloche. Voilà au moins des certitudes sur quoi fonder, ou au contraire, renoncer à fonder quoi que ce soit. Imagine quelqu'un d'enfermé dans une pièce hermétiquement close, sans issue possible, sans aucune porte ou fenêtre à fracturer, pire qu'une geôle dans un quartier de haute sécurité, et qui y découvrirait soudain invisible jusqu'alors, un fauve ou un ennemi sans pitié, ou rien qu'une ombre agressive avançant lentement vers lui, ce qui est radicalement sans issue, imparable, inéluctable. Tel est le combat radicalement inégal de l'agonie. Tel du moins il était, puisqu'on peut désormais nous l'épargner ou en atténuer artificiellement les morsures. C'était tout de même très beau, ce temps où l'on allumait quelques cierges, où ne fût-ce qu'une seule bougie dans la chambre du mort ou de la morte. Cela ne les ferait pas revenir à la vie, cela ne les accompagnerait peut-être même pas dans l'inconnaissable où ils venaient de glisser, mais c'était comme attester quelque chose, en dépit de leur chute, tout à côté d'eux, commençant à se décomposer dans leur boîte cadenassée. Quelque chose concernant la lumière que rien ne pouvait faire, qu'ils ne l'eussent vue, eux aussi, luire quelquefois autour d'eux, quand ils marchaient entre deux rangs de trembles et en tant d'autres occasions, dans l'incompréhensible et miraculeux intervalle entre deux nuits, pires que des nuits. Pour clore cette émission, j'ai choisi de vous lire une assez longue prose. C'est le dernier texte inséré par les soins de son auteur dans ce volume de la Pléiade, et ce fut préalablement un recueil publié en 2009 avec des dessins d'Anne-Marie Jacotet, son épouse, qui est peintre. Cela a pour titre « Couleur de terre ». Et à mes yeux, c'est un texte qui résume ce qui sous-tend toute l'écriture de Philippe Jacotet, à savoir cet étonnement d'être au monde, avec la jubilation que cela lui procure, en même temps que ce vertige devant l'énigme qu'il n'a cessé en sa qualité de poète et d'ignorant, comme il aimait à se qualifier, de questionner tout au long de sa vie. Et de cela, nous pouvons lui être profondément reconnaissants.
Chemin, taches rousses des sédums, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant. Notez d'abord cela pour ne pas oublier l'intensité singulière de ces instants. Aussitôt après, ces taches rousses sur les rochers, comme on parle de la lune rousse, comme des morceaux de toison, de la toison du soleil couchant. Et puis, ce lien entre chemin et chaleur, une chaleur émanée du sol. Et le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, la sente étroite du bout du monde, mais justement pas du bout du monde, d'ici, de tout près, sous les pas, non dans un livre. Tendre trace silencieuse laissée par tous ceux qui ont marché là depuis très longtemps, trace des vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, trace de bergers et de chasseurs d'abord, et il n'y a pas si longtemps encore, puis de simples promeneurs, d'enfants, de rêveurs, de botanistes, d'amoureux peut-être. Le temps humain qui inscrit ses lignes souples dans le sol. Et presque tout de suite, presque en même temps, la stupeur. Stupeur n'est pas trop dire si l'on peut concevoir une stupeur tranquille, calme, sans aucune crispation, sans éclat, sans bruit. Stupeur, soudain, intime, d'être là, d'avoir part, d'avoir droit à cette chaleur de la terre, avec pour seule compagne les lianes de la clématite sauvage où l'on pourrait se prendre les pieds et la cératule, la fidèle mendiante rose des fins d'été. Il y a là quelque chose d'absolument, de parfaitement incompréhensible, ou du moins qui est ressenti immédiatement comme tel, non pas douloureusement, mais tout au contraire, presque joyeusement, presque hors de toute pensée, avec gratitude. Nommer cette impression plaisir l'eût rendue trop légère et trop gracile. Bonheur en eût fait quelque chose de sentimental, de trop domestique et de trop moral. Parler de joie, peut-être, si le mot n'eût entraîné l'esprit vers le religieux, le solennel, le grandiose même. Le sûr, c'est qu'il s'agissait d'une impression d'heureuse plénitude extrêmement intense, tout en restant bizarrement calme, plus bizarrement encore comme imperceptible. On aurait presque pu ne pas en prendre conscience. Et pourtant, continuant à essayer d'approcher ce tout petit, ce bref événement, je me suis dit qu'il s'agissait d'une sorte de heurt intime contre de l'incompréhensible absolu. Et ce heurt, si l'on peut ainsi dire, redoublé, parce qu'il semblait parfaitement incompréhensible que ce fût incompréhensible à ce point. Tout bonnement d'être là, dans ce lieu, et ce moment-là, vivant, à coup sûr, ne rêvant pas, au milieu de choses tout aussi indubitables les unes que les autres, dans leur relative insignifiance et leur mutisme. Un semblant de révélation, si l'on veut, à la rigueur, accordé, octroyé au vieil ignorant que l'on est. Et pour que cela se fût produit, nul besoin de drogue, ni d'ascèse, ni de transgression, ni d'excès d'aucune sorte, pas de violence, mais n'était-ce pas trop facile? Nul besoin d'aller ailleurs, de chercher loin, de gravir quoi que ce soit du genre escarpé, périlleux, sublime, ni transe, ni extase, ni cri, ni prière, ni rituel, même pas une seconde de méditation. Pas de dépouillement, pas de sacrifice. C'est peut-être avouer le peu de sérieux de tout cela. Il n'y avait là rien qu'un mince chemin de terre, couleur de terre, de ces sentes qui souvent se perdent dans le maquis sous les chênes. De chaque côté, de petits arbres plutôt rabougris, revêches quelquefois, quelquefois couverts de très vieilles mousses comme d'une couche de cendre, en parfait accord avec les rochers parmi lesquels ils avaient poussé non sans peine. Des arbres dont le feuillage, entre vert sombre et gris pâle, n'était guère enclin à frémir. Et encore, épars, çà et là, des ossements de bois mort qui m'ont fait penser à la vallée de Josaphat dans la Bible. Et presque plus aucune fleur, même petite, rien que ces taches rousses des sédums sur les rochers, comme les restes d'un feu à ras du sol. À ce moment-là, pas un seul oiseau, quelques insectes dont le bruit était un peu semblable à celui du bois qui craque en brûlant. Mais l'admirable, ce qui avait déclenché cette impression de plénitude aussi intense et profonde qu'énigmatique, c'était la chaleur qui montait de ces chemins comme l'eût fait à une autre saison de la brume. Chaleur couleur de terre, elle aussi. Parce qu'en quelque sorte, tout était de terre en ces instants, moins comme une caresse que comme une bonté silencieuse, sans nom, sans visage et sans même un cœur. Je n'ai pas cru alors, ou plutôt, je n'ai pas imaginé ensuite que mes défunts parents, ni un seul de mes amis morts, soient nichés quelque part dans l'air autour de moi. Les vivants, eux, n'étaient heureusement jamais très loin. Je me suis rendu compte aussi que, pour m'aider à dénouer l'énigme, j'aurais perdu mon temps à convoquer des fées, des sorcières, des satyres ou des nymphes. J'aurais seulement trouvé leur intervention éventuelle plutôt cocasse, encombrante et pour tout avouer théâtrale. Même le passage d'Ariel, si lumineux qu'on le rêve, là où volaient les autres soirs plutôt des corneilles ou des geais à la voix grinçante, m'aurait paru factice. Et les anges eux-mêmes, eussent-ils été les plus invisibles et les plus purs de leur ordre, ne m'auraient pas aidé à élucider l'énigme couleur de terre, l'énigme à la chaleur de pain sortant du four, comme le soleil se couchait. Il faut encore le préciser. Je n'ai pas, ce soir-là, senti le sol trembler et encore moins se fendre sous mes pieds pour m'annoncer la fin imminente du monde. Pas plus que, si j'avais levé les yeux, je n'aurais vu les cieux s'ouvrir et y trôner les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse, si beaux, si grands, si vénérables qu'ils puissent être. Il se trouve pourtant que j'ai pensé à ces choses, trop grande pour moi, presque aussitôt après mon retour de promenade. Ce qu'il y avait eu là, non pas devant moi ou autour de moi, mais dans l'amalgame de moi et de ce morceau du monde, avait été peut-être la plus grande densité d'incompréhensible contre laquelle j'eusse jamais buté, avec presque de la jubilation. Ou faut-il imaginer que l'incompréhensible était comme un ciment qui nous aurait liés ensemble quelques instants ? Chemins imprégnés de la vie de ceux qui les avaient lentement tracés, chemins écrits par le temps, sans aucune violence dans la terre, ainsi que l'eau ailleurs en creuse avec patience et sans blessure. Ici et maintenant, dans l'épaisseur de l'énigme, dans sa chaleur, dans son silence, un vieil homme, parfaitement et irrévocablement ignare, et qu'on voit donner congé aux fées, congé aux anges, congé aux 24 vieillards de Saint-Jean, lui-même partie prenante de l'énigme dans sa plus grande densité. Et qui sait s'il ne devrait pas effacer aussi ce mot ? Afin de mieux recevoir cette bonté venue de la terre, couleur de terre, couleur de soleil bientôt couché, couleur de feu très ancien. Mais encore, cela ne me revient à l'esprit que maintenant, j'avais alors pour toute compagne visible une sératule dont la fleur hésite entre le rose et le mauve, maigre, haillonneuse, et c'était un peu comme si une étoile sans nom et sans éclat avait décidé de se faire mendiante à côté de nous en chaque fin d'été.
En accompagnement musical, vous avez entendu le deuxième mouvement de la sonate pour piano en si bémol, l'ultime sonate de Schubert, achevée en septembre 1828, 2 mois avant sa mort. Celle qui, comme je vous le disais en début d'émission, était particulièrement appréciée par Philippe Jacotet. Nous arrivons au terme de cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver le jeudi 20 mai. Et voici, pour la route, à méditer d'ici à notre prochain rendez-vous, une toute dernière note de la semaison par la voix de Philippe Jacotet.
Une note de la seconde semaison en février 1981. Cette phrase de la conférence des oiseaux vue à Paris dans l'émouvante réalisation de Peter Brook, « Les oiseaux sont arrivés dans la vallée du néant », mais un astrologue leur rend un peu de courage pour aller au-delà, quand même les deux mondes seraient tout à coup anéantis. Il ne faudrait pas nier l'existence d'un seul grain de sable de la terre. S'il ne restait aucune trace ni d'homme ni de génie, fais attention au secret de la goutte de pluie. Cela pourrait servir d'épigraphe à tout livre de poèmes que l'on oserait encore écrire et publier aujourd'hui.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.